Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers des expériences de vie, de gens que je rencontre un peu partout sur mon itinéraire. Là, on se retrouve dans un cadre un peu rigolo. On est sur un bateau avec devant moi Morgane. Alors, tu es habillée tout en blanc. C'est quoi ça comme tenue?
Alors, du coup, ça, c'est l'uniforme du bateau, donc qui est obligatoire. Donc, uniforme blanc pour le maritime et donc les galons aussi qui vont avec pour le maritime.
Ça veut dire quoi, les galons?
Alors, les galons, pour l'hôtellerie, c'est plus une hiérarchie. Donc, en l'occurrence, donc, j'ai deux galons. Après, ça a beaucoup plus de sens pour la navigation, qui, eux, vraiment baignent dans ça depuis toujours. Donc, pour l'hôtellerie, ce sont des galons couleur argentée et la navigation, les galons dorés.
Donc on est sur un bateau, on navigue quelque part sur les flots entre l'Égypte et la Jordanie, sur la mer Rouge. Donc toi Morgane, tu es là, tu travailles sur ce bateau. Donc avant de savoir comment tu es arrivé ici, je m'intéressais un peu à ton itinéraire. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis un jour à voyager? Est-ce que déjà enfant tu avais cette envie d'ailleurs? Comment est-ce qu'on en arrive à travailler sur un bateau qui est un milieu quand même très clos?
Alors c'est vraiment le fruit du hasard en fait. Bon, avec ma maman, c'est vrai qu'on voyageait, mais c'était plus dans l'Europe, tout ce qui est Espagne, Portugal. Et à 18 ans, tout a changé. Donc je suis de Montpellier à la base, mais c'est vrai que voilà, je me voyais pas rester à Montpellier. Et après donc mon diplôme, après mon bac, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et c'est là où vraiment ça a changé ma vie, le fait de ce premier voyage, de vivre à l'étranger. Ça a complètement changé ma vie.
Comment t'as choisi ta destination? Pourquoi les États-Unis?
Eh bien, par hasard. Et aussi, il y a beaucoup de hasard. Complètement par hasard. En fait, à la base, donc, je voulais simplement continuer mes études à l'étranger. Sauf qu'on me proposait Erasmus. Donc Erasmus qui reste en Europe. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Et du coup, bah, j'ai trouvé les États-Unis. Sauf que problème, c'est très cher tout ce qui est université là-bas. Et j'ai trouvé, en passant par une agence d'au pair, qui te sponsorise l'université en fait à l'étranger. Et en échange, tu t'occupes donc des enfants dans une famille.
Tu es restée combien de temps là-bas?
Je suis restée 2 ans. 2 ans aux États-Unis. Alors la première année, en fait, je partais seulement pour une année. J'ai tendu sur ma deuxième année de visa.
Mais là, le projet, c'était quoi? C'était d'apprendre la langue, continuer à voyager, finir tes études là-bas. Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu imaginais en partant aux États-Unis?
Alors au début, pas grand-chose, parce que moi, c'était vraiment juste pour pas rester en France, parce que j'avais pas envie de perdre mon temps en France, en allant à l'université, en faisant quelque chose un peu par défaut qui me plaisait, mais pas vraiment au final. Et je me suis dit, ça va être le fait de partir, ça va vraiment me permettre de me sortir un peu tout ça et de voir autre chose. Et au début, donc les États-Unis, c'était pas du tout un rêve d'aller aux États-Unis ou quoi que ce soit. Sauf que là aussi, j'ai une très bonne opportunité en partant en au pair, parce que à la base, m'occuper des enfants, ça me disait pas forcément non plus. Mais voilà, j'ai une bonne opportunité, donc j'y suis allée et je regrette pas du tout.
Mais comment ça se passe quand tu travailles au pair? Donc là, t'es toute jeune, t'as 18 ans, tu pars aux États-Unis, tu rencontres une famille que tu ne connais pas et tu vas devoir y passer H24 du temps avec eux.
C'est ça. Alors du coup, la famille, je la connaissais pas en effet, mais quand même, on la connaît quand même un peu, mine de rien. Et du coup, c'est vraiment, je pense, je me rendais pas compte en fait. Je me rendais pas du tout compte de ce qui se passait. Je me rendais pas du tout compte du fait de la langue, parce qu'en anglais, je parlais pas un mot d'anglais. Je partais vraiment de zéro. Et sur le moment, je me rendais pas compte. Je me suis dit j'ai l'opportunité d'y aller. J'y vais, tout simplement. J'y vais.
Enfin, tu t'occupes des enfants, mais tu parles pas la langue. J'ai du mal à concevoir qu'une famille confie ses enfants à une personne qu'on connaît pas et qui ne parle pas la même langue.
Alors, du coup, ils parlaient quand même un peu français. Donc moi, je devais parler aussi parler aux enfants en français aux enfants. Donc il y avait quand même des bases. Et après, au final, tu te rends compte que c'est universel, quoi. Si tu as envie de communiquer avec les gens, tu peux toujours communiquer avec eux, que tu parles anglais ou espagnol ou n'importe quelle langue. Et après, tu apprends. Voilà, les deux premiers mois sont compliqués, mais tu apprends et tu finis par apprendre la langue et pouvoir plus t'exprimer et plus communiquer avec les gens qui t'entourent.
Quoi ressemble une journée type ? T'as quand même du temps pour toi pour aller te balader, visiter un peu le pays, ou est-ce que t'es vraiment avec cette famille et ses enfants tout le temps ?
Alors du coup, concernant la famille d'au pair, c'était vraiment une famille particulière. Ils voyageaient beaucoup de par le métier donc de ma host family, donc de mon host dad, ce qu'on appelle host dad, donc c'est la famille qui m'accueille. Ils ont beaucoup voyagé, on était souvent en tournage avec la famille. Ils faisaient aussi beaucoup de musique, donc invités sur les festivals de musique, par exemple 2 jours à Saint-Pétersbourg, 3 jours à Moscou, on allait à Genève, on a énormément voyagé aussi, et ils m'ont vraiment inclus dans la famille. J'étais pas juste une employée, j'étais vraiment tout le temps avec eux, je mangeais avec eux et tous les voyages se faisaient avec eux aussi. Donc la journée type, c'était le matin, donc j'allais à l'université, puisque c'était quand même, à la base, c'était quand même pour ça. Donc j'avais mes cours le matin, je rentrais le midi et à 15h j'allais chercher donc les enfants à l'école. Et selon après leurs activités, rentrer le soir à la maison, voilà, jusqu'au soir.
Mais donc à travers cette expérience, tu as aussi déjà, t'as déjà pas mal voyagé. Tu disais ils faisaient du tournage, donc c'était quoi ? C'était des musiciens, c'est ça ? Donc tu te retrouvais dans différents pays du monde à faire des représentations ?
Oui, j'ai énormément voyagé avec eux. Alors c'était plus... il est plus dans les films, en fait, que par... c'est un grand producteur de films. Bon, il s'agit de Woody Allen. Du coup, je me suis retrouvée 2 ans chez Woody Allen à m'occuper de ses enfants. Pendant 2 ans, j'étais avec la famille Allen.
Comment on devient fille au père de Woody Allen ? C'est incroyable comme histoire.
Eh bien, par hasard. En fait, c'est vraiment un hasard. J'étais donc avec l'agence à Montpellier, donc qui s'occupe des recrutements au pair. J'ai eu donc un entretien avec la directrice qui s'est très très bien passé. Et en fait, après ça, 2-3 semaines plus tard, j'avais soit une famille au Connecticut qui m'était proposée en début. Sauf que moi, je connaissais pas les États-Unis. Connecticut, pour moi, c'était très bien aussi. Et en fait, après, elle m'a dit, sinon, j'ai une autre famille à te proposer. Bon, là, c'est un peu plus particulier. Donc, elle commence à m'expliquer. Je lui dis, d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, par contre, ce sera 6 jours par semaine. C'est quand même assez intense. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Une confidentialité à avoir que les autres filles au pair n'auront pas forcément par rapport au lieu où tu vas habiter, etc. Donc j'ai dit, moi, ça ne me pose pas de problème en soi. Et de là, elle me dit, le cinéma, est-ce que tu aimes bien et tout ? Moi, je suis complètement passionnée de cinéma, j'adore les films, j'adore tout ce qui est cinéma. Et elle me dit, alors si tu es prête, tu rejoins donc la famille Allen dans 3 semaines au Festival de Cannes à Cannes. Et de là, tout a commencé.
Extraordinaire, quoi. Tu te retrouves fille au pair pendant 2 ans aux États-Unis dans la famille de Woody Allen. Par hasard, tu utilises beaucoup le mot hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard ? Est-ce que tu crois réellement que le hasard existe ?
Alors oui et non, parce que sinon on me dit c'est par chance. Alors par chance, pas forcément non plus, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de sacrifices. Ça a quand même été aussi des moments quand t'es en voyage, où t'es tout seul, où tu doutes, où tu dis pourquoi t'es là, t'es loin de ta famille, tu manques des événements dans ta famille. Donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup, beaucoup de sacrifices. Le hasard aussi, il est quand même provoqué par soi-même, ça arrive pas comme ça. Mais voilà, après c'est des éléments de la vie qui arrivent, qu'on contrôle pas, et je crois que tout arrive pour une raison. Si ça se passe, que ce soit bon ou mauvais, c'est que ça devait arriver. Donc sur le moment, tu le vois pas forcément, mais voilà, c'est la suite de la vie, c'est que ça devait arriver, donc ça m'est arrivé. C'était génial.
c'est exceptionnel. Donc tu passes 2 ans là-bas aux États-Unis, tu finis ton, je sais pas si on parle de contrat, en tout cas ton boulot de fille au pair. Qu'est-ce que tu finis tes études là-bas aussi ? Donc c'était quoi tes études ?
Alors moi, c'était plus dans le marketing, dans le business, parce que je voulais faire commerce international. Ce qui, à l'époque, je pensais qu'il me permettait beaucoup de voyager. Et au final, c'est pas ce qui me plaît du tout, donc j'ai vraiment laissé cette branche-là de côté. J'ai quand même le diplôme pour avoir quand même un background si jamais j'avais besoin, mais après voilà, j'ai complètement laissé tomber cette voie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a quand même cette envie de voyage, de beaucoup voyager, commerce international, voyager, fille au père pour voyager. Qu'est-ce que c'est que le voyage? Qu'est-ce qui fait que tu es appelée par ça?
Je pense déjà de par ma famille. C'est vrai que voilà, on vient. Ma maman est française, mais après, du côté de mon papa, on a plus ce côté-là un peu de voyage, de partir ailleurs, des origines où il faut découvrir ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que la France, bien sûr.
Donc tu rentres en France après avoir terminé tes études, et quelle est la suite?
Alors la suite a été très compliquée au retour des États-Unis, parce que c'est vrai que le retour à Montpellier, ça a été très très difficile. Après 2 ans où tu fais ta vie, clairement, moi j'ai fait ma vie à New York, pour moi j'habitais là-bas, j'avais mes habitudes, je savais où aller, de ce que j'avais besoin, et c'est vrai que tu rentres à Montpellier, et là tu te rends compte que rien n'a changé, tout est exactement pareil, sauf que toi, bien évidemment, t'es pas du tout la même, quoi. Donc ça a été pas facile, ça a été franchement 2 mois où tu te dis, c'est pas la vie que j'ai envie, j'ai changé, je vois bien que tout est pareil autour, mais toi t'es plus la même, quoi. Et de là, je suis repartie du coup.
Est-ce que tu arrives à identifier, c'est intéressant parce qu'on ressent tous ça à un moment ou à un autre, où t'as l'impression que tu grandis, enfin il se passe énormément de choses en soi, autour de soi, et quand tu reviens tout est figé. Qu'est-ce que tu observais comme différence? Qu'est-ce qui avait changé en toi après 2 ans d'expatriation?
Tout au niveau de mon caractère, c'est vrai que j'étais très timide à l'époque, je suis encore, mais c'est vrai que tu t'ouvres à énormément de choses, t'as plus confiance en toi, t'as vraiment un regard complètement différent, le fait d'avoir vu une autre culture, rien que le fait d'apprendre une autre langue, ça te change, quoi, et tu vois que ce que t'as laissé, par contre, c'est toujours la même chose, mais cette différence, c'est toi qui l'as créée en partant, donc... Après, par rapport aux gens qui sont restés, tu ne peux pas leur reprocher de ne pas comprendre ce que toi, tu as vécu. Mais tant que tu ne le vis pas, ce n'est pas compréhensible. Tu as beau expliquer, tu as beau dire, j'étais là, surtout qu'avec les Allen, on a fait beaucoup de choses. Tu as beau montrer des photos, expliquer ce qui s'est passé, c'est le fait de l'avoir vécu, c'est différent. Tu ne peux pas l'expliquer, en fait, ça ne s'explique pas.
Mais on rencontre aussi d'autres personnes qui sont plus en lien, plus en phase ou plus alignées avec ce qu'on est.
C'est ça, exactement. C'est vrai que quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des Français aussi. Et c'est vrai qu'on a créé quelque chose unique, que nous, on est les seuls à pouvoir comprendre ce qui s'est passé là-bas, parce qu'on était les seuls à être là-bas. Donc tu rencontres d'autres gens, on a rencontré énormément de gens. Alors après, dans toutes les rencontres que tu fais dans les voyages, c'est plus des connaissances, des gens. Il y a certaines personnes, tu sais que tu les vas aller voir une fois dans ta vie, tu les reverras jamais. Donc même si tu crées un lien très fort sur le moment, tu sais que c'est éphémère, que tu ne les reverras pas. Et d'autres personnes avec qui tu matches dès le début, et tu sais que ces personnes-là, elles ont vécu exactement la même chose, elles sont passées par les mêmes moments. Donc ça rapproche beaucoup plus. Genre 2 ans aux États-Unis, ça vaut peut-être 10 ans en France, parce que tout est tellement en décalé que ça fait vraiment un décalage.
Tu disais, tu t'y retrouvais un peu par hasard, donc tu te retrouves à bosser comme fille au père dans la famille de Woody Allen. Donc tu es plongé dans un univers nouveau aussi, même si tu aimais le cinéma à la base, là tu te retrouves dans quelque chose d'assez incroyable comme réalité. Est-ce que tu n'as pas eu envie de développer ou d'aller aussi un peu dans ce réseau, dans l'image, dans le cinéma, dans la réalisation, ou pas du tout?
Oui, monde complètement différent, vraiment. Alors lui, c'est un homme très simple, donc c'est pas vraiment comme des grandes stars, Strass et Payet. Lui, il est vraiment très très simple. Mais n'empêche que le premier voyage pour aller aux États-Unis, c'était donc en jet privé. Donc moi, je passais tout est décalé, en fait. Et une fois que t'es dans ce monde-là, après, ça te paraît normal de voyager en avion privé. Tu vois même une différence d'avion privé. Tu te dis, celui-là, il était un peu plus petit que celui qu'on avait sur un autre endroit. Donc vraiment, tout est différent, mais après, le tout, c'est de ne pas se perdre là-dedans, parce que c'est quand même un monde très particulier. C'est quand même aussi assez le massin, c'est beaucoup par... par exemple, j'invite la famille Allen à tel endroit, mais en échange, c'est pour dire que les Allen, ils étaient là. Donc tout est un peu comme ça. C'est un monde vraiment particulier. Après, moi, ça ne m'a pas intéressé de rester là-dedans. Franchement, les 2 ans que j'ai vécu, c'était incroyable. Je ne regrette rien du tout. c'était vraiment incroyable. Mais après, à rester là à long terme, je pense que c'est pas ce qui me correspond.
Et les États-Unis, c'est quelque chose où tu as envie d'y retourner? Qu'est-ce qui te reste de cette expérience de 2 ans de vie à New York?
Ah oui, complètement. J'ai vraiment envie d'y retourner. Déjà pour voir donc la famille, pour voir ce qui s'est passé depuis, parce que ça fait quand même 9 ans presque. Et pour voilà me souvenir de mes 18 ans quand je suis arrivée, que je débarquais, que j'arrivais de ma petite ville de Montpellier où je parlais pas un mot d'anglais. Et c'est vrai que maintenant, bon, j'ai beaucoup évolué aussi depuis. Mais oui, complètement y retourner, parce que c'est vrai que les États-Unis c'est pareil, surtout New York. Moi, j'étais en plein de Manhattan. C'est vachement cosmopolite, t'as de tout, c'est incroyable, t'as vraiment toutes sortes de personnalités que tu vois dans la rue. New York, c'est vraiment, c'est particulier. Après, soit on aime, soit on n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi où c'est trop et que du coup, ils s'y retrouvent pas du tout. Mais c'est vrai que les États-Unis, t'as vraiment de tout. Enfin, c'est incroyable quand tu passes de Las Vegas à Monument Valley à San Francisco. Enfin, c'est incroyable. Donc, les États-Unis à refaire avec un autre regard du coup.
Donc tu rentres en France, décalage total entre ce que tu as pu vivre là-bas et puis ce que tu retrouves dans ta vie à Montpellier. Donc cette envie de repartir, donc quelle était la suite?
Alors du coup la suite aussi c'était un peu par défaut parce que je savais pas du tout quoi faire. De là donc avec une amie de New York pareil qui a vraiment ce même sentiment d'être vraiment oppressée en rentrant en France, on décide de repartir et en fait par défaut plus ou moins, on se rend compte qu'en Australie, c'est là où c'est le plus facile pour avoir le visa, parce que c'est vrai que de partir c'est bien, mais encore faut pouvoir travailler, et l'Australie c'était plus facile pour avoir donc ce qu'ils appellent le Working Holiday Visa, donc on a fait notre visa et on est parti pour l'Australie.
Et là, c'était quoi le boulot?
Alors là, il y a eu beaucoup d'étapes. Là, il y a eu 5 mois très compliqués. 5 premiers mois en Australie très très compliqués parce que pas de boulot, donc pas d'argent. Et en Australie, c'est très très cher. Donc nous, on nous avait dit, vous allez voir, l'Australie, c'est vraiment l'Eldorado. Vous allez trouver du travail très facilement, c'est très bien payé. Et en fait, on n'est arrivé pas du tout. C'était pas la bonne période, c'était pas le bon endroit à signer. Donc il n'y a rien qui allait. Donc les 5 premiers mois très durs. Et après, en persistant un peu, j'ai trouvé donc une compagnie à Melbourne et j'ai fini production manager là-bas dans cette entreprise à Melbourne. J'y suis restée 3 ans.
Comment ça se fait que c'est compliqué l'Australie? J'ai l'image d'énormément de Français qui partent avec un visa vacances-travail, hein, comme toi, le Working Holiday, et puis qui font du fruit picking ou qui font du woofing. J'ai l'impression qu'il y a énormément de Français qui partent là-bas.
Alors en effet, il y a énormément de Français, mais il y a aussi il y a beaucoup d'arnaques. Hein, c'est pas un secret non plus. En Australie, faut faire attention. Sauf que quand tu sais pas, quand t'arrives comme ça vraiment avec ton sac à dos, il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Et il y a beaucoup d'arnaques qui nous est arrivé nous. Donc on est un peu resté sur le food picking, bloqué à un endroit où on voulait partir, mais on n'avait plus d'argent pour partir. Donc on est resté là un petit moment, après on a réussi à partir, donc c'est là où ça s'est débloqué. Mais c'est vrai que non, l'Australie, il y a vraiment deux côtés, c'est soit t'arrives et en effet, bon, t'es très bien payé, etc. Ou sinon, il y en a aussi beaucoup qui galèrent en arrivant en Australie.
Tu as profité aussi d'être sur place pour, pareil, faire un road trip avec le van et faire le tour du pays?
Alors là, un peu moins qu'aux États-Unis, parce que l'Australie, c'est quand même un pays... avec la culture, c'est pas du tout la même. Les villes, ça se ressemble énormément, que ce soit Sydney, Melbourne. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de villes à visiter puisque c'est réparti en 3-4 villes maximum. Et après, c'est le bush australien où là, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, j'ai fait un peu que Melbourne, Sydney, Cairns, Darwin et Perth. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins voyagé en Australie que ce que j'ai pu faire aux États-Unis. Mais par contre, l'Australie m'a permis de faire tous les pays d'Asie alentour où là c'était beaucoup plus proche qu'en France, donc j'ai préféré plutôt valoriser tout ce qui est Asie, Nouvelle-Zélande, que vraiment voyager en Australie elle-même.
Morgane, pourquoi tu voyages? Qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi tu as cette envie, même en Australie, qui est déjà un voyage, tu continues à voyager dans d'autres pays?
Un voyage dans un voyage. Pourquoi? Parce que c'est un besoin. C'est vrai que je me dis qu'il serait temps que j'ai une vie un peu plus posée et tout ça, mais au final non. C'est ce qu'on te met un peu dans la tête, où à 30 ans, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu aies des enfants parce que tu es une femme, donc tu as ton horloge biologique qui tourne. Mais au final, non, le voyage, ça t'apporte tellement. Moi, ça m'a tellement apporté que je me dis que cette vie, si j'ai vraiment envie d'une vie en France stable, je pourrais l'avoir plus tard, mais pour le moment, j'ai encore plein de choses à découvrir. C'est vraiment le fait d'avoir un peu ce sentiment qui est tellement plus que le monde nous offre tellement, qu'il faut découvrir, quoi.
Tu as quel âge ?
Alors là, j'ai 30 ans.
Donc la maison, le bébé, le chien, c'est pas pour tout de suite ?
Eh ben non, non, c'est pas pour tout de suite. Alors ce sera peut-être un jour, mais c'est vrai que maintenant je me dis, si ça vient, ça vient, et si ça vient pas, bah, j'aurai vécu une belle vie, j'ai pas de regrets, j'ai absolument aucun regret de ce qui s'est passé. Et si ça vient, bah, tant mieux, parce que bon, la mentalité elle peut changer, je peux avoir envie d'un enfant dans quelques années, mais pour le moment ça me correspond pas, donc...
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Morgane, je te rencontre sur un bateau, la belle de l'Adriatique. Donc, comme on introduisait au début de cette émission, on est entre l'Égypte et la Jordanie.
Alors du coup, les bateaux, c'était en rentrant d'Australie, justement, après être rentrée en France, où je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais donc avec mon meilleur ami donc, que j'ai rencontré à Melbourne. On travaillait ensemble dans la même entreprise. Et on ne savait pas quoi faire tous les deux. Il m'a proposé de m'installer sur Paris. Donc je me suis installée sur Paris en me disant « Bon, bah, là c'est bon, je vais trouver vraiment une vie plus stable. Je vais m'installer, je vais avoir un travail lambda, voilà, un chien et des enfants. » Donc j'ai essayé et en fait en répondant à une annonce, je crois que c'était Pôle emploi il me semble, ou Indeed, sur les bateaux de croisière. Donc moi je connaissais vraiment rien du tout à l'hôtellerie, c'est vraiment la première fois que je travaillais dans l'hôtellerie. Et quand on m'a appelé et qu'on me parlait de bateaux de croisière, je voyais pas vraiment, je me souvenais même pas en fait avoir appliqué pour cette offre-là. J'ai eu donc l'entretien avec ma responsable à Nantes sur un des bateaux croisés Europe, le Loire Princesse. Ça s'est plutôt bien passé. Elle m'a dit, bah écoute, dans 2 jours, tu peux commencer sur les bateaux. Donc de là, ça a commencé.
Qu'est-ce que c'est, bosser sur un bateau ?
Alors c'est très particulier. Il faut savoir que là, c'est pareil. C'est vraiment une ambiance. On est vraiment dans notre bulle quand on est ici avec l'équipage. Il faut toujours un petit temps d'adaptation quand on sort de cet univers-là, qu'on rentre à la maison. Parce que voilà, on est vraiment dans notre bulle. Moi, je connaissais pas du tout ce mode de vie-là. Je l'avais un peu en Australie parce qu'on voilà, on restait un peu entre nous. Mais c'est vrai que là, à bord, dans sa cabine, c'est une première. Je connaissais pas du tout ça. Donc, quand j'ai eu l'entretien, bon, elle m'a expliqué un peu ma responsable. Mais c'est vrai que tant que t'es pas à bord, tu peux pas savoir comment c'est, quoi.
Parce que c'est un milieu un peu très clos, t'es sur une bulle, t'es pas vraiment dans un pays, t'es tout le temps en mouvement, sans réellement savoir où tu es.
C'est ça, ouais, c'est vrai que le matin, des fois, je me réveille, je sais pas où je suis. Alors ça dure pas longtemps, hein, mais c'est vrai que des fois, c'est 3 secondes, 5 secondes à me dire, attends, là, on est où, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, après, voilà, ton cerveau, il se réadapte, mais non, cette vie, après, c'est une vie aussi qui te permet de... Même si t'es dans ta bulle, t'as quand même environ une centaine de passagers que t'embarques chaque semaine. Donc, c'est des nouveaux passagers, des nouvelles histoires, des nouveaux contacts avec les clients. C'est aussi avec les Philippins qui sont à bord. Donc là, en maritime, ce sont les Philippins. Et les Philippins, c'est pareil, c'est une nouvelle culture, c'est un nouvel langage que tu connaissais pas, que t'apprends. Donc ça te permet aussi de t'ouvrir, d'avoir une autre mentalité aussi.
Oui, parce que tu as le personnel à bord qui représente, je crois, une centaine de personnes, c'est ça ? Plus tous les voyageurs qui sont là. Et c'est vraiment deux vies, en fait, deux mondes qui se côtoient.
C'est ça, on est en parallèle, donc on est sur le même bateau. Mais voilà, on a deux vies, la vie avec le crew, avec l'équipage, et la vie avec les passagers, qui n'est forcément pas la même. Mais après, pour les Philippins, du moins, parce que moi, j'ai commencé sur les bateaux fleuves. Donc la compagnie Croisi Europe, c'est principalement du fluvial. Donc j'ai fait 2 ans sur les fluviaux, un peu plus, 3 ans sur le fluvial. Et après, ma responsable m'a donné l'opportunité aussi, m'a proposé de passer en maritime. Donc sur le fluvial, c'était plus des Hongrois. Et là, ce sont plus des Philippins. Et il y a toujours très peu de Français, parce que les Français travaillaient comme ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc en général, on n'est pas beaucoup de Français.
Travailler comme ça, ça veut dire quoi, comme ça ?
Alors c'est assez intense, c'est un travail assez intense, c'est un travail où et bah, il faut travailler déjà. Donc c'est vrai qu'en France, il y en a beaucoup aussi qui restent à la maison et qui sont mieux payés à rien faire qu'en travaillant. Mais voilà, faut bosser. Si t'as envie de travailler, c'est aussi c'est une expérience incroyable. Ça t'apporte tellement que tu vois pas les heures qui passent en fait. Moi, c'est vrai que ce que j'aime dans ce travail, c'est que tu te rends pas du tout compte de l'heure parce que t'as tellement de choses à faire, t'es tellement dans ta croisière que t'es pas là à te dire bon mince, il me reste encore 2 minutes, ça m'embête. Là vraiment, t'enchaînes ta journée et t'as l'impression que t'as pas assez d'heures dans ta journée tellement tu voudrais faire de choses. Et tout ça, c'est du travail. Donc les gens, ils peuvent se dire bon, normalement, quand tu finis ton travail, t'as envie de rentrer chez toi, t'en as marre quoi. Moi, je me dis bon, si j'avais encore quelques heures de plus, je ferais encore d'autres choses quoi.
C'est vrai que donc moi je fais partie des passagers, hein, donc je fais pas partie du staff, donc je bosse pas, je suis plutôt là, enfin si je bosse mais pour autre chose, pour faire de la photo. Et le matin quand je me réveille, bah, y a déjà quelqu'un à la réception, souvent c'est toi, le soir pareil, à 22h c'est encore toi, on te voit partout, tout le temps, et je prends conscience qu'en fait il n'y a pas de repos quand tu travailles sur un bateau, parce qu'il faut être tout le temps présente pour les gens, et à peine le groupe part, qu'un autre groupe remonte sur le bateau et hop, on recommence.
C'est ça exactement, donc pour les passagers qui n'aiment pas ma tête, bah ils sont un peu... dans l'embarras parce que je suis là tout le temps, donc je suis là le matin, l'après-midi et donc le soir aussi. Bon, en général ça va, les passagers m'aiment bien quand même, mais c'est vrai que non, c'est intense hein, comme boulot. C'est comme les travails saisonniers en fait. Quand tu fais une saison de ski ou une saison d'été, bah voilà, tu sais pourquoi t'es là, tu travailles 3, 4 mois, 5 mois, mais voilà, c'est intense. Non, c'est beaucoup de travail, mais encore une fois, moi c'est ce que j'aime, ça me dérange pas, j'aime ce que je fais, donc d'être là du matin au soir, ça me dérange pas. Et après je sais que voilà, par contre quand je rentre à la maison, bah là je suis vraiment en repos quoi.
Mais c'est quand même une vie dédiée au travail. Et toi, dans ta vie perso, comment tu fais? On a quand même, enfin, t'es une voyageuse. On en parlait avant. T'aimes aussi cette notion de découvrir l'autre, aller à la rencontre du monde. Là, tu mets complètement ta vie personnelle entre parenthèses.
Ouais, complètement. Mais après, c'est vrai que je pense que le fait d'avoir travaillé à l'étranger depuis mes 18 ans, parce que même quand j'étais avec Léa Allen, c'est vrai que j'allais à l'université et après j'enchaînais avec le travail. J'ai plus cette notion qu'on n'a pas vraiment en France, où en France c'est plus 35 heures, les week-ends, les vacances. Alors qu'à l'étranger, c'est tu travailles et après t'as une récompense aussi derrière. Et au final, l'un dans l'autre, même si je travaille beaucoup, j'ai quand même aussi tout ce côté où je peux sortir, ça me permet de faire des voyages. Et après, quand je rentre à la maison, bah là, je repars aussi. Donc au final, je suis pas souvent en France.
Donc quand tu rentres chez toi, hein, quand tu es en break, hein, quand les bateaux s'arrêtent, tu repars en voyage?
Oui, alors là, avec le Covid, bien évidemment, les choses se compliquent. Mais c'est vrai qu'en général, je reste un peu en France, voilà, histoire de... Les 2-3 premiers jours, pas de son, pas d'image, je reste vraiment un peu le temps de me réadapter à la vie normale, entre guillemets. Et après, j'essaie quand même de repartir. Alors, je fais pas trop des destinations non plus. Je vais pas aller en Nouvelle-Zélande avec un vol de 32 heures. Mais c'est vrai que si je peux aller en Grèce ou en Croatie ou faire des petits voyages comme ça... je le fais parce que tout simplement j'ai le temps, j'ai économisé assez à bord parce qu'à bord on n'a pas de dépenses. Donc c'est aussi l'avantage d'être sur les bateaux, c'est qu'on est nourri, logé, blanchi. Donc ça permet aussi d'avoir un bon salaire. C'est beaucoup plus facile d'économiser en travaillant 4 mois sur un bateau qu'en étant 4 mois en France à acheter ta nourriture, à faire tes lessives, etc.
Et quand tu revoyages, donc pour toi, à titre perso, est-ce qu'il y a un but ou est-ce que c'est simplement goûter de la nourriture, voir des paysages, ou est-ce que tu as quand même un fil rouge qui va te guider d'une destination à une autre?
Non, après ça dépend aussi des relations que j'ai avec... parce que du coup, dans mon cercle d'amis, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans les voyages, qui travaillent dans les clubs vacances, tout ça. Donc ça me permet aussi d'aller les voir. Voilà, c'est plus en fonction aussi des gens. Après, partir toute seule, j'ai pas l'impression de l'avoir fait. La seule fois où j'étais partie vraiment toute seule, c'était en Asie, dans un camp d'entraînement d'arts martiaux, où là j'étais vraiment toute seule. Mais en fait, t'es jamais tout seul dans les voyages, tu rencontres toujours des gens, enfin c'est incroyable. Tu peux partir tout seul mais t'auras jamais cette sensation de solitude en fait, sauf si vraiment tu t'exclus du groupe, mais où vraiment t'es un social et là tu vas vraiment partir à personne et tu veux faire ton truc. Mais sinon en voyage, t'es jamais seul quoi.
Et puis c'est vrai que la planète est très peuplée partout et les gens souvent ne te laissent pas seul, ils sont curieux. Et puis nous-mêmes, on a cette ouverture vers l'autre.
Ouais, carrément. C'est vrai que d'un voyageur à l'autre, on se dit « Ah, t'as fait quoi? C'est comment là? T'as envie d'avoir un peu des informations ?» Et t'as toujours ce besoin de voir ce qui se passe ailleurs aussi, quoi.
Morgane, on est donc sur le bateau, devant toi un Toki qui est en train de parler. Je vais te rendre pour que tu puisses baquer à tes occupations. C'est quoi la suite de la journée là pour toi?
Alors là, la suite de la journée, donc on va arriver sur Sharm el-Sheikh, ensuite ce sera le départ en excursion, et le soir sur le bateau, il y a une soirée égyptienne qui est prévue à bord.
Merci Morgane.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !